La grâce, la miséricorde et la paix sont sur chacune et chacun d'entre vous, offertes par Dieu sans condition. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret qui est au début du psautier français et qui guidera donc ce culte. Alors ce sont des nouveaux cycles de prières, puisque nous entrons donc avec nos frères et sœurs catholiques, luthériens, donc dans le temps de carême. Donc je vous propose de vous lever pour accueillir ce Dieu qui nous rassemble. Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour. De tout cœur, ô Éternel, nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta fidélité. Tu fais grandir en notre âme une force. Nous te rendons grâce quand nous entendons les paroles de ta bouche et nous chantons les chemins de l'Éternel. Oui, qu'elle est grande, la gloire de l'Éternel. Quand nous marchons au milieu des angoisses, tu nous fais revivre. C'est ton action qui nous rend plus forts. L'Éternel fait tout pour nous. Notre Dieu éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Alors c'est ce psaume 138 dont je viens de vous lire un extrait que nous allons chanter ensemble, donc toujours dans le psautier français, au psaume 138, « Que tout mon cœur soit dans mon chant », les trois strophes de ce psaume de la Réforme. Alors vous pouvez prendre place. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous donc, qui avait affronté ce joli petit matin frisquet du mois de novembre pour venir au culte et donc vraiment chercher effectivement une fraîcheur nouvelle sur notre foi, notre réflexion et puis aussi sur notre façon d'être ensemble. Alors bienvenue à Frédéric Chavel qui est professeur de théologie à la faculté de théologie protestante de Paris. Donc merci à toi Frédéric pour le grand soutien donc, que tu m'apportes au cours de cette année où je suis donc seul à desservir l'oratoire. Et puis bienvenue à Mathilde Carayon qui a demandé à recevoir le baptême parmi nous ce matin. Grand bienvenue aussi à son fan club. Alors c'est vrai que c'est sympa d'avoir des personnes qui soutiennent. Alors bienvenue à vous, que vous soyez donc protestante, plutôt comme le papa, catholique comme la maman. De toute façon, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. Et puis bienvenue donc à vos amis qui seraient pas forcément donc croyants et qui ont ce geste d'ouverture, d'amitié, d'être là ce matin. Alors oui, le fan club, il en faut un parce que vous le méritez, Mathilde, il faut du courage pour s'avancer, pour vivre en sincérité, particulièrement peut-être dans ce qui nous est si personnel, ce qui nous anime, ce qui fait notre foi. Voici ce que l'Évangile nous propose de vivre selon les paroles de Jésus-Christ. Écoute le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur, nous dit-il. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et il ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Alors après avoir entendu cet idéal infini de l'amour, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour reconnaître que nous avons comme une petite marge de progression et donc lui demander son pardon et vraiment son aide. Alors je vous propose de suivre du cœur ce psaume de David. Des profondeurs, je crie vers toi, ô Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Car si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours nous puissions nous tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut, il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Amen. Mais à chacune et chacun, au plus profond de lui-même, l'Éternel s'adresse et parle. Même si les montagnes s'effondraient, nous dit-il, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Et voici comment Dieu a vraiment manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils, son unique, dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Vous pouvez prendre place, sauf Mathilde, que j'accueille ici même, au cœur donc de cette maison. Donc Mathilde, ça fait des années que vous voulez être baptisée, en fait, que vous y réfléchissez, que vous vous y préparez. Alors évidemment, avec une petite hésitation, compte tenu de votre, je dirais, héritage entre le catholicisme et le protestantisme, mais de toute façon, c'est pas grave, puisque le baptême n'est pas un baptême protestants, c'est un baptême chrétien, nous avons un seul Christ, un seul évangile, un seul Seigneur. Mais effectivement, il y a quand même ensuite une place que l'on choisit, une famille, j'allais dire spirituelle, une façon de travailler sa foi, et vous avez choisi le protestantisme. Donc c'est pour nous un honneur, c'est pour nous une joie. Alors c'est vrai que c'est un hasard extraordinaire parce que vous avez cherché un petit peu comment trouver une place pour demander le baptême. Vous avez atterri, je ne sais comment, à l'oratoire, par le site internet, par une prière, vous m'avez dit, qui est sur la première page, en disant « je veux laisser du temps pour réfléchir à Dieu, faire une place pour avoir un nouveau regard sur ceux qui m'entourent, sur la vie ». Et puis il se trouve que j'ai été le pasteur, quasiment dans une autre vie, il y a 25 ans, de votre grand-père, Paul Carayon, pour qui j'avais une grande admiration. Voilà. Et donc c'est un hasard et une joie de trouver maintenant la petite fille qui choisit de s'inscrire dans ce parcours. Alors rien ni personne ne vous force dans ce choix, dans cette façon de demander le baptême, bien entendu. Et je crois que c'est la force de votre génération, c'est une grande sincérité dans cette démarche de foi, puisque s'il y a 3 générations, 4 générations, dans un village, il fallait de toute façon être chrétien, aller à l'église. Aujourd'hui, c'est vraiment en sincérité, c'est un choix personnel, c'est une liberté. Et ça, c'est, je trouve, magnifique. Et dans notre société, aujourd'hui, dans l'église, il y a cette sincérité importante qui rend les choses si belles et si vraies. Donc, merci d'être dans cette belle démarche et de prendre du temps pour Dieu, effectivement. Bravo pour votre parcours si sincère, si vrai, intelligent, joyeux et réfléchi. Nous prions Dieu. Ô Éternel, notre Dieu, tu as donné ton esprit de lumière et de vie à Mathilde. Tu l'as accueillie comme ta fille bien-aimée. Que ce baptême soit le signe de ses dons. Et qu'avec le Christ, elle devienne jour après jour de plus en plus vivante et source de vie pour ceux qu'elle aime, rayonnante de foi, d'amour et d'espérance. Amen. Alors Mathilde, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui Mathilde, que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il vous sanctifie, qu'il vous accompagne sur le chemin de votre vie et illumine les choix que vous pouvez prendre. Cet amour est source de liberté, de confiance, de joie, de beaux gestes pour embellir le monde, ce monde qui en a tant besoin, le rendre joyeux et fraternel. Mathilde, Dieu vous conduit sur le chemin de vie dans sa paix, sa force et sa joie. Amen. Alors merci Mathilde pour cet honneur que vous nous faites d'être ici ce matin. Alors vous avez beaucoup travaillé sur la façon de répondre oui à cette grâce de Dieu pour rédiger quelque chose qui vienne de vous. Vous avez travaillé sur cette confession de foi, mis beaucoup de temps à l'écrire. Ce n'est pas facile de trouver des mots, puisant l'inspiration dans la Bible, dans la littérature, dans la poésie d'Agrippa d'Aubigné, d'autres choses, dans la réflexion. Et donc, votre oui à Dieu personnel aujourd'hui, eh bien, sera pour nous la confession de foi de notre Église ce matin. Et donc, je vous propose de vous lever pour vous unir par la foi à ce que Mathilde a choisi de nous dire avec ses mots.
Nous ne nous séparons que pour être plus intimement unis, plus divinement accordés à toutes choses et à nous-mêmes. Nous mourrons pour revivre. Je serai. Je ne demande pas ce que je deviendrai. Être, vivre est assez, c'est la gloire de Dieu. C'est pourquoi tout ce qui est vie dans le monde divin ignore l'égalité. Il n'y a en lui ni maître, ni esclave. Les natures vivent les unes avec les autres comme des amants. Elles ont tout en commun. L'esprit, la joie, l'éternelle jeunesse et la grâce. J'aimerais chercher la beauté dans la justice et l'harmonie des relations humaines, empreintes de charité. Je me suis demandé quel est cet amour qui rend belle l'âme aimante. C'est donc par les Saintes Écritures que j'ai trouvé la réponse et que je peux maintenant déclarer la confession de ma foi auprès de l'Église protestante. Être chrétien, quelle que soit son obédience, est avant tout l'acceptation du divin et la reconnaissance universelle de la parole de Dieu. Je suis ici aujourd'hui pour m'unir à Jésus-Christ par le baptême et devenir fille de Dieu par la foi.
Grand merci, Mathilde. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. Alors Mathilde, vous avez reçu le baptême, signe de l'amour que Dieu a pour vous en particulier, au singulier. Vous avez répondu à cette grâce par votre foi. Nous vous recevons avec grande joie, comme vous le disiez, comme membre de l'Église chrétienne universelle, donc qui dépasse largement les chapelles, les confessions et les paroisses. Mathilde, Dieu vous bénit et vous accompagne, il éclaire votre route par sa parole, il vous donne sa paix, sa joie par sa présence, et il vous donne d'être une bénédiction pour ceux qui vous sont confiés. Et pour cela, que le Saint-Esprit affermisse votre foi, qu'il vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour, pour votre vie tout entière. Oui, que la joie de l'Éternel soit votre force. Grand merci à vous.
Mes frères, mes sœurs, c'est le texte de l'évangile de Matthieu dans le chapitre 6, les versets 24 à 34 que nous partageons ce matin comme fondement de notre écoute vivante. C'est Jésus qui était en train de parler à ses disciples dans ce texte. Personne, dit Jésus, personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture ? Et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent point dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui d'entre vous peut par son inquiétude prolonger tant soit peu son existence ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez ? Observez les lys des champs, comme ils croissent. Ils ne peinent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le cherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pour avoir une écoute active, nous chantons dans notre écoute biblique, nous chantons le cantique 298, les trois premières strophes. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir ici rassemblés en ta présence pour la révélation de ta volonté au milieu de nos confusions et de nos compromissions avec tout ce qui est contraire. Fais taire les voix qui s'opposent à la tienne. Au contraire, anime en nous les résonances de ce qui est disposé à toi. Ne permets pas que ta parole passe parmi nous sans être reçue, sans être aimée, sans devenir notre vie. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. Quelle belle parole de Jésus! Elle est simple à comprendre pour une fois. Elle nous invite à nous détacher, semble-t-il, de tout ce qui est superflu, à enlever la vanité de tous nos soucis, à nous satisfaire simplement de l'essentiel, qui de toute façon, cet essentiel, nous est donné par Dieu. Parole facile. C'est vraiment un sujet idéal de prédication, pourrait-on dire, car l'affaire est bouclée d'avance. Ce n'est à peine la nécessité que je vous parle, un peu comme dans ces recettes de cuisine faciles qu'on trouve dans les magazines, vous savez, les recettes immanquables. Sur cette parole, pendant une vingtaine de minutes, je peux vous inviter à vous dégager de vos vanités. Je vais vous dire que vous devez vous libérer de tout ce qui encombre dans votre vie, de revenir à une vie plus simple, plus naturelle, plus bio. Et comme a priori, que l'on soit dans une église chrétienne ou que l'on soit n'importe où ailleurs dans notre société, tout le monde est d'accord avec ça, c'est un poncif bien partagé, on peut passer un moment tout à fait tranquille ensemble et puis chacun rentrera chez soi. L'ensemble ayant malheureusement été vaguement ennuyeux et absurde. Mais après tout, on a vu pire. Parfois, Jésus dit des choses qui nous dérangent, donc au moins quand il ne nous dérange pas. Mais quoique, comme dirait Raymond Devos, mais je ne dis pas cela simplement pour rire, quoique. Cette affaire entendue d'avance, dans la manière dont ordinairement on lit ce texte lorsqu'on le prend trop vite, lorsqu'on n'a pas envie de s'embêter avec lui, permettez-moi de vous dire que je n'y crois tout simplement pas du tout à cette interprétation. Car cette interprétation primaire, grossière presque du texte, repose sur une idée absurde. L'idée que Jésus nous donnerait comme modèle pour notre vie les petits oiseaux ou les fleurs, qui nous inciterait à vivre comme des petits oiseaux, comme des fleurs. Mais qu'est-ce que cela veut dire, concrètement ? Pas grand-chose. Qu'est-ce que cela voudrait dire, concrètement, de vivre comme une fleur ? Rester planté là, à sucer des nutriments, Et qu'est-ce que cela voudrait dire, vivre comme un oiseau ? Picorer, ici ou là, en faisant parfois des petites réserves, un petit nid, mais sans véritablement labourer, engranger, engager des travaux de construction plus complexes ? Ce serait une belle idée, être un oiseau, être une fleur. Mais ça ne marche pas. Ça fait tout de même quelques milliers d'années que le temps des chasseurs-cueilleurs est passé et nous ne sommes tout simplement physiquement plus capables de vivre dans cette condition-là. Notre vie corporelle et spirituelle est devenue liée au travail. Pour le dire tout concrètement, tout simplement, si l'homme essaye de vivre comme la fleur, si l'homme essaye de vivre comme le petit oiseau, sans calculer ce dont il a besoin pour vivre, eh bien, il meurt. Les personnes dans la rue pour qui l'on n'a pas pu, soit eux, soit la société, calculer la manière de pouvoir leur donner des vêtements, eh bien, ils meurent de froid, c'est tout simple. Ceux pour qui on n'a pas pu calculer de quelle manière on va pouvoir leur donner à manger, eh bien, ils meurent de faim, c'est tout simple. L'homme, dans sa constitution naturelle, est directement lié à ces cycles de la consommation, cycles ordinaires de la consommation, et c'est une pure utopie de prétendre nous en extraire. Nous vivons dans ces cycles. J'ai faim, je consomme, je suis repu, je m'endors, et puis à nouveau j'ai faim, et puis à nouveau je consomme, et puis à nouveau je suis repu, à nouveau je m'endors, et personne ne peut sortir de ce cycle-là. Alors je sais bien que parfois, par fantaisie, et c'est bien, on peut encourager la créativité, par fantaisie, l'Église a parfois inventé des histoires tout à fait démentielles de saints ou de saintes qui auraient vécu des dizaines d'années en ne mangeant que des hosties. Mais tout ça, ces bizarreries ascétiques, c'est du folklore. Alors, on peut toujours ouvrir la porte au miracle, on peut laisser les choses ouvertes pour des cas strictement individuels, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est la vie ordinaire. C'est le message de Jésus pour la beauté et les équilibres de la vie ordinaire, donc au milieu de ces cycles de consommation, en passant par ces cycles naturels. D'ailleurs, il y a une autre tromperie dans la compréhension banale que nous avons de ce texte. L'autre tromperie consisterait à penser, et du coup à annoncer en chair, que le message de Jésus irait dans le sens « laisser aller les choses, lâcher prise, la providence divine va s'occuper de tout ». Et ça, encore une fois, c'est tout simplement pas vrai. Si Jésus pensait véritablement ça, il aurait tout simplement tort, il faudrait en discuter avec lui, mais il se tromperait sur ce que c'est que la providence de Dieu. J'incline plutôt à ne pas lui donner tort et à penser qu'il a une vision un peu moins bête de ce que l'on appelle la providence. Parce que Dieu ne donne pas toujours à manger à ceux qui ont faim. Il y a des personnes qui ont faim et qui meurent de faim. Dieu ne donne pas toujours des vêtements à ceux qui en ont besoin. Il y a des personnes qui ont froid et qui meurent de froid. Alors qu'est-ce que cela veut dire, cette providence dont on nous annoncerait qu'elle donne, lorsqu'elle ne donne de fait pas toujours? Au moment où nous sommes en train de lire le texte, il y en a qui sont en train, on est obligé de le dire comme ça, de crever sous le regard de Dieu. Ils crèvent sous le regard de Dieu. Alors qu'est-ce que cela veut dire, s'abandonner à la providence? Pour explorer un peu cette question, je crois qu'il faut se défaire de l'image naïve du bonheur des petits oiseaux et des lys. C'est une image pour enfants, mais l'Évangile n'est pas une histoire pour personnes immatures. Les petits oiseaux que le Père Céleste nourrit, comme dit le texte, les petits oiseaux sont eux aussi des êtres particulièrement vulnérables. Ils picorent, ils font leur nid, et le lendemain, ils sont morts. Les lys, de même. Ils sont splendides, et d'ailleurs Jésus le dit explicitement dans le texte, ils sont splendides, mais cela ne dure pas longtemps, et le lendemain, ils sont bons à couper au feu de l'herbe sèche, la vie est déjà passée. Autrement dit, et encore une fois, Jésus nous en donne des marques à l'intérieur même du texte, avec cette idée de l'herbe jetée au feu. Autrement dit, la providence qu'évoque Jésus ne doit certainement pas être comprise comme une assurance tout risque de prospérité matérielle, comme si notre vie, quoi qu'il arrive, était garantie. La providence de Dieu, elle doit être comprise en face du fait que parfois, tout simplement, on meurt comme le petit oiseau sur qui Dieu veille, comme la fleur sur qui Dieu veille. Dieu veille sur nous et parfois, on meurt. Bien sûr, lorsque Dieu donne la vie et donne la beauté, il y a lieu de rendre grâce. Mais dans la Bible, le jour où la vie et la beauté sont retirées, eh bien, il faut encore rendre grâce. La providence, le discours de la Bible sur la providence, ne consiste pas à vous dire que tout ira toujours bien. Il y a des jours où ça va mal, et ce jour-là, il faut encore bénir. C'est ce que dit en tout cas Job, le prophète. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Pourtant, il y a encore un élément du texte dont nous n'avons pas parlé et qui me semble essentiel pour aller un peu plus loin. C'est cette fameuse question de Jésus « Ne valez-vous pas bien plus que les oiseaux ?» Et vous avez peut-être entendu à la lecture, à la première audition, que le mot « plus » est un des mots structurants du texte. Il revient à plusieurs reprises, c'est manifestement un des mots charnières, un des mots qui structure la compréhension. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ? Cette question de Jésus dans le texte est clairement une question rhétorique, à savoir une question à laquelle on n'est pas obligé de répondre explicitement, parce que le lecteur intelligent sait déjà quelle réponse il est censé faire. Le lecteur sait qu'à cette question, il est censé dire « oui, bien sûr ». Ah, vraiment ? Je sais, en lisant ce texte, que je suis censé dire « oui, bien sûr, je vaux beaucoup plus que les oiseaux ». Vraiment ? Cela m'étonne de la part de Jésus qu'il me dise cela. Franchement, devant Dieu, je ne vois pas pourquoi. Et d'ailleurs, ça touche un peu ce que nous a dit Mathilde tout à l'heure dans sa confession de foi. Devant Dieu, je ne vois pas plus, je ne vois pas pourquoi je vaudrais soit plus, soit moins non plus, que les lys ou que les oiseaux. Ma dignité de créature, ma dignité donnée par Dieu, n'est ni supérieure ni inférieure à la leur. Alors, qu'est-ce que Jésus veut me faire comprendre avec ce plus ? Il y a peut-être en moi quelque chose que je dois valoriser. Les oiseaux, tout comme moi, les lys, tout comme moi, ont leur cycle de consommation. À leur manière, ils ont faim. À leur manière, ils rassemblent, ils picorent, ils sont repus, ils dorment, etc. D'une certaine manière, leur cycle de consommation est totalement analogue au mien. Mais ces oiseaux, ne sont-ils pas plus que leur cycle de consommation ? Je n'en sais rien. Je dirais que c'est une question entre Dieu et les oiseaux, donc je ne suis pas très bien placé pour trancher, mais j'aurais tendance à dire que si. Sans doute que les oiseaux sont beaucoup plus que leur cycle de consommation. Et de même pour les lys, et là Jésus le dit explicitement, les lys, Jésus ne les envisage pas simplement comme une réalité naturelle, mais il regarde leur beauté. Il y a une sorte de plus de beauté qui émerge en plus de leur consommation. Et c'est sans doute vrai pour moi. Sans doute que moi aussi, je suis plus que cela. Sans doute que moi aussi, je suis plus que cette consommation. Ainsi, le texte, de la manière dont je le lis maintenant avec vous, ne vise pas vraiment une critique de la consommation, mais plutôt une ouverture vers ce qu'il y a d'autre, de plus que la consommation. Que la société humaine s'occupe, entre autres choses, d'organiser la consommation, de réguler nos cycles, je n'y vois franchement pas de mal. Et je ne vois pas pourquoi Jésus attaquerait cela. À mon sens, il ne le fait pas. Mais que la société ne fasse que cela, que la société ne s'occupe que de consommation, là c'est un peu court. Que la société devienne société de consommation, que la société soit tout entière caractérisable par cette dimension de consommation, voilà ce qui est certainement contestable. Alors vous me direz, bien sûr, il y a un gros anachronisme à interpréter cette parole de Jésus en face de la réalité d'une société de consommation. Ça, je ne suis pas totalement inconscient de cet anachronisme. Mais pourtant, à mon sens, c'est quand même bien cette question-là que Jésus pose, même si l'histoire des sociétés humaines fait que cet envahissement de toutes les dimensions de la vie par la dimension de consommation s'est certainement accéléré, démultiplié dans des proportions qu'à mon avis Jésus n'aurait pas imaginées de son temps. Tout cela est connu, nous connaissons les facteurs, le passage à une société technique, la généralisation du rapport à l'argent qui devient l'unité d'appréciation, de coordination et de distribution de toute chose ou presque, peu de choses échappent à cette appréciation en termes de valeur. L'argent, au lieu d'être simplement un outil, devient une unité de mesure, et la consommation, au lieu d'être simplement une condition minimale de survie, devient la vie. Nous ne vivons plus, ou de moins en moins, dans un monde à quatre dimensions. Nous pourrions vivre dans un monde avec largeur, profondeur, hauteur et durée. Mais de plus en plus, nous vivons dans un monde à une seule dimension où tout se ramène à la dimension de l'argent et de la consommation. Et cela plaît, parce que cela rassure. Un monde à quatre dimensions, il faut l'explorer. Il faut du courage pour l'explorer. Un monde à une dimension, il est maîtrisable. Plus de soucis existentiels, on fait des soldes dès qu'on a un moment. Plus d'inquiétude, on achète de l'assurance vie. Plus d'ennui, plus de temps mort. Si l'on s'ennuie, il suffit d'aller sur Internet ou de décluser un peu sa boîte mail. Et l'obsolescence des systèmes, l'obsolescence programmée, fait que cette société de consommation technique, pour ainsi dire, d'avance, empêche que l'on s'ennuie. À chaque instant, il faut réparer ce qui vient de tomber en panne, providentiellement, nous empêchant de penser à autre chose. Il faut réparer sa voiture, réparer sa machine à laver, refaire sa teinture de cheveux, etc. Il y a toujours quelque chose à réparer et cela nous occupe presque à l'infini. Sauf qu'heureusement, ça ne marche pas. Nous ne sommes pas si bêtes. Heureusement, cette apparence de saturation trouve toujours ses failles. J'ai beau, de temps en temps, peut-être par déprime, peut-être par lassitude, accepter complaisamment d'entrer dans ces cycles, il y a toujours quand même des moments où ma vie, et c'est peut-être le don de Dieu, se réveille vers autre chose. Des moments où je me rappelle que ma vie est autre chose. Reprenons donc ce plus que Jésus donne pour notre vie. Il dit trois choses. D'abord, ne vous inquiétez pas. Vous avez vu avec ce que je vous disais tout à l'heure sur la providence que j'interprète cette phrase, non pas dans le sens où il ne faudrait pas faire attention à nos besoins ordinaires, mais dans le sens où cette satisfaction naturelle des besoins ordinaires ne doit pas focaliser l'ensemble de notre attention et devenir inquiétude. Ce que nous demande Jésus, au fond, ce n'est pas de faire moins, ce n'est pas de consommer moins. Ce qu'il nous demande, c'est d'avoir un plus. Dans notre vie, il y a autre chose. Et la consommation, secondairement, prendra la place qu'il faudra, mais je commence par autre chose, le royaume de Dieu, sa justice. En effet, et c'est la deuxième phrase de l'enseignement de Jésus, je disais qu'il y avait trois choses, Jésus dit ensuite, la vie est plus que le vêtement. Autrement dit, les choses les plus essentielles dépassent ce registre de la consommation. Mais alors, de quel registre sont-elles? Et Jésus répond, avec sa troisième phrase d'enseignement, la réponse de Jésus consiste dans la phrase « Regardez les oiseaux » ou un peu plus loin « Observez les lys ». Le plus, Il se découvre en terre de regard, d'observation, ou pour le dire avec un terme de la tradition chrétienne, de la contemplation. On est bien d'accord que la contemplation suppose d'être en vie. Celui qui meurt de faim ou de froid ne contemple pas. Il se contente de mourir, malheureusement. Mais dès que l'on est un peu nourri et habillé, alors quelque chose en nous se tourne vers ce plus et cette contemplation. Vous avez tous forcément fait cette expérience d'être à un moment où l'on est dans un lit d'hôpital et où la simple survie, la simple nécessité de vivre physiquement occupe déjà beaucoup de nos efforts. Et pourtant, dès que l'on est un tout petit peu hissé au-delà de la survie, le plus important, ça devient la visite de l'autre, la visite de la personne qui vient dans notre chambre. S'il y avait la possibilité de choisir entre vivre physiquement sans jamais être visité et recevoir une visite dans l'amour, quitte à mourir le lendemain, peut-être que le second choix serait largement préférable. Pour redire cela dans un vocabulaire un peu plus théologique et traditionnel, depuis longtemps, les chrétiens ont parlé de grâce de Dieu. Cette grâce, elle s'associe à deux choses. La libération, autrement dit l'ouverture d'un espace de créativité avec le reste de la création, mais aussi la grâce, dans la théologie chrétienne, va avec une notion que l'on appelle celle de satisfaction. La théologie classique entend par là le fait que Dieu nous libère de tous ces soucis qui pourraient peser sur nous. La culpabilité, la colère de Dieu, le poids du remords, la difficulté, les rancunes dans nos relations avec nos frères et nos sœurs. Tout cela doit être considéré comme satisfait, soldé. Dieu prend en charge ce passif, nous pouvons nous consacrer au plus. Alors, contrairement à ce que prêchent, pensant bien faire, nombre de prédicateurs, sans doute bien intentionnés, mais mal inspirés à mon avis, le christianisme ne doit pas consister à partir en guerre contre la consommation. Non. Peut-être dénoncer l'excès de la société de consommation, mais pas dénoncer la consommation elle-même. Dans ce temps de carême, car comme l'a dit Marc, actuellement, la plupart des chrétiens dans le monde vivent un temps de carême. Alors, on n'est pas obligé de le faire. Libre à nous, nous pouvons aussi choisir de préférer vivre avec un temps plat et sans fête. Mais enfin, un certain nombre de chrétiens, actuellement, sont en train de se donner un temps spécifique. Contrairement à ce que l'on fait trop souvent, à mon sens, cela ne sert à rien de vivre le temps du carême simplement comme un temps de dépouillement, comme un temps de moins. Car si l'on ne fait que creuser du vide, la nature ayant horreur du vide, eh bien le lendemain, tout est revenu à la même place. C'est comme lorsque je demande à mes enfants de ranger leur chambre. Déjà, c'est pénible. Mais de toute façon, s'il n'y a rien d'autre, une heure après, la chambre est dans le même état qu'avant. Et Jésus lui-même raconte la même histoire en disant un jour où il chasse un esprit impur, si on ne met rien d'autre à la place, il y a sept esprits impurs qui reviennent à la place. Donc ça ne sert à rien de vivre le carême simplement comme un temps de dépouillement. Mes enfants savent ranger leur chambre tout seuls à partir du moment où ils ont envie de mettre quelque chose dans leur chambre. Lorsqu'ils ont quelque chose qui les intéresse, qui les motive, qu'ils veulent placer dans leur chambre, là tout à coup ils savent tout ranger et la chambre fait place nette pour ceux qui doivent venir. Le carême ainsi doit d'abord être un carême du plus, une orientation vers plus de richesses dans notre vie, un désir de ce qui doit venir en plus et à quoi nous avons trop vite renoncé. Et ensuite seulement, parce que nous voulons accueillir ce plus, alors il faut faire un peu de place et de moins. Mais pour ainsi dire, le dépouillement n'est qu'un outil pour la vraie richesse sur quoi on doit être d'abord focalisé. La beauté avant tout. C'est ce que je voudrais, pour finir, vous laisser sous la forme d'une histoire et d'une image que vous pourrez garder en vous, car les mots s'envolent, mais les images permettent de tenir un peu en sa mémoire ce que l'on a échangé. Il y a quelques années, j'avais fait un court séjour en Inde d'une dizaine de jours. Et évidemment, comme tous ceux qui viennent de Paris en Inde, j'avais été obligé d'être touché, ému par la manière dont beaucoup de gens vivent là-bas misérables, ces intouchables qui vivent dans la rue, à même la terre, et qui dorment sous la pluie de mousson, sans aucune protection. Pour les plus opprimés d'entre eux, manifestement, mais c'est très dur d'en juger, venant d'un autre contexte, pour les plus opprimés d'entre eux, il semblait que la souffrance fût simplement immédiate, viscérale. Il n'y avait presque plus rien, en apparence, que l'effort minimal de survie. Et vous pouvez imaginer que c'était un déchirement de passer à côté d'eux, avec ma bonne santé de Parisien nourri. Mais pour la plupart des personnes que je croisais, mon impression était différente. Même au milieu d'une pauvreté très dure, ils veillaient à des petits détails de l'ordre du plus, comme dit Jésus dans ce texte. Ils veillaient à des petits détails qui enjolivaient leur quotidien et qui, en quelque sorte, marquaient où se trouvait leur vraie vie, leur vraie dignité. Pas simplement dans le fait de survivre, mais dans ce plus. Ainsi, je me souviendrai toujours d'un vieil homme. Un vieil homme, squelettique, en haillons, sur un vélo rouillé, grinçant, l'homme venu de nulle part, l'homme allant je ne sais pas où, qui tenait par miracle sur son vélo malgré la faim, et le vélo lui-même tenait par miracle malgré la rouille. Mais au guidon du vélo, le vieil homme avait accroché une ficelle avec 3 pompons jaunes. Sa vie était belle. Ces 3 pompons jaunes disaient que sa vie est beaucoup plus que le vêtement, que sa vie est beaucoup plus que sa misère et sa difficulté de survivre. Sa vie était digne parce qu'elle était décorée, parce qu'il avait mis 3 pompons jaunes sur son misérable vélo. Absurde ? Certainement pas. Le pompon jaune, pour cet homme, est plus encore que le sac de riz qu'il a ou qu'il n'a pas. Mais le pompon jaune, il l'a. La beauté de la vie est plus que le vêtement. Alors, mes amis, allez faire un carême du plus. Allez vous acheter des pompons jaunes pour vous ou à offrir. Amen.
Et pour prolonger donc cette méditation profonde et vraie, nous vous proposons de chanter dans le psautier français le psaume 91 qui demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. Donc les strophes 1, 4 et 5, la première et les deux dernières strophes de ce psaume 91. Dans le bouquin. Vous pouvez prendre place pour quelques annonces. D'abord, un très très grand merci à Frédéric Chavel, qui en plus donc, nous a donné son texte pour que vous puissiez l'avoir à la sortie. Alors, je l'ai reçu ce matin à 5h59, donc grand merci à Frédéric pour ce travail supplémentaire donc, de rédiger ce texte. C'est vrai que nous aimons bien avoir le texte de la prédication, pour réfléchir dessus, pour essayer de l'enraciner peut-être dans notre réflexion personnelle, dans notre vie, et puis peut-être le distribuer à un proche que ça pourrait également toucher et faire avancer. Alors vous le voyez, on a les aînés de l'oratoire qui sont venus ici et donc qui désirent partager avec nous un petit peu leur projet.
Alors, bonjour à tous. Donc nous sommes les routiers de l'oratoire et c'était pour vous dire qu'on organise une sortie gâteau à la sortie du temple, donc sous la grande porte. Voilà, donc c'est pour financer notre projet en Arménie, qui est pour aller aider une association là-bas qui aide les enfants et les personnes âgées en leur donnant à manger et en leur fournissant des activités. Voilà, bah, merci beaucoup. J'espère que vous serez nombreux.
Donc, merci pour ce projet, cette action, et puis effectivement cette recherche de venir la partager avec nous. Alors, à propos de nourriture, eh bien, nous sommes invités au repas de paroisse qui est en face, grâce effectivement à une grâce. Il y a des personnes qui y travaillent toute l'après-midi hier, et puis ce matin déjà étaient à l'œuvre. Donc on peut y aller même si on ne s'est pas inscrit à ce repas de paroisse, parce que c'est effectivement un temps encore de partage. Mardi soir, il y a le grec biblique débutant à 19h30, et puis il y a le groupe philosophie et théologie à 20h, donc en face aux 4 rues de l'Oratoire, animé par Denis Guénoun, qui nous propose de rencontrer Valère Novarina, qui est un auteur de théâtre, un philosophe, un artiste tout à fait remarquable. Donc il a écrit un article un peu subversif et je trouve très profond, qui s'appelle « Pour en finir avec le sacré ». Donc nous en avons tiré un extrait, vous en trouverez à la sortie si vous désirez venir à ce groupe mardi. Vous le trouverez aussi en téléchargement sur Internet. Vous trouverez le lien sur la page d'accueil. Donc cette rencontre, c'est mardi à 20h. Mercredi, il y a le grec biblique pour le groupe donc des avancés. Jeudi, il y a la répétition du chœur. Samedi, il y a notre cycle d'initiation à la théologie. C'est la troisième rencontre d'un cycle de 6. À 10h, il y a l'hébreu biblique avec Gilles Castelnau. Et puis, il y a le temps de prière à 18h. Donc, tout ça, c'est samedi. Et puis, dimanche prochain, ici, nous recevons Lita Basset, qui est une pasteure, philosophe, théologienne, auteure de nombreux ouvrages qui ont un succès qui déborde largement les sphères protestantes. Effectivement, c'est une grande dame, je trouve, remarquable, qui, en fait, donnera la prédication dimanche prochain, mais qui donnera aussi le lendemain une conférence sur son nouveau livre. Un livre qui est à paraître le 8 mars, c'est-à-dire ça doit être quelque chose comme mercredi, mais nous en avons déjà en avant-première, les premiers, je pense, sur la place de Paris, qui sont en vente au stand de librairie. Alors ne vous en vantez pas trop, parce que je ne suis pas sûr que ça soit... ça est publié normalement le 8 mars. Et donc, je crois que ce livre, moi, j'ai dû le lire parce que je devais préparer quelque chose pour Réforme, qui publie une page entière sur la sortie de ce livre de Lita Basset. Donc, je trouve ce livre tout à fait profond et puis renouvelle vraiment des concepts peut-être difficiles à comprendre et à partager, que sont le mot même de Dieu, tout à fait piégé, la grâce, le salut, tout un tas de mots, et puis aussi qui nous propose donc d'être en recherche de la source, valorisant cette recherche. Donc vous pouvez lire ce livre, le partager, et peut-être le faire dédicacer donc dimanche et prochain, et le lendemain, le lundi, où elle donnera sa conférence. Alors maintenant, c'est le moment de l'offrande, et nous recevons, c'est vrai, tant de grâces, que le geste d'offrande est un geste déjà de gratitude pour notre Dieu, et puis permet aussi effectivement de faire que l'Église puisse exister et accompagne les personnes sans condition de ressources. Et grand merci à Aurélien donc pour cet accompagnement à l'orgue. Je vous invite à vous unir dans la prière. Ô notre Dieu, merci pour chaque personne qui a été pour nous une bénédiction, une source de vie. Aide-nous à recueillir avec affection et respect chacune de ces bénédictions. Purifie notre souvenir, purifie notre amour, ouvre nos yeux sur tout cet amour que nous recevons et qui nous fait vivre. En particulier sur cet amour si profond, cet amour premier que tu as pour nous, amour qui donne vie à notre amour. Tu es, toi, notre Dieu, et tu restes toujours fidèlement la source ultime du bien. C'est pourquoi nous pouvons venir vers toi avec tout ce qui nous préoccupe, nous peine, avec nos espoirs et avec nos beaux projets. Nous ne savons pas ce que tu peux faire, toi, la source toujours de nouvelles, de vie, mais nous te faisons confiance. Nous pensons devant toi, nous pensons grâce à toi, nous pensons avec toi à ceux qui nous sont confiés, pour que nous puissions les aider et que nous nous laissions aider par eux. Et qu'ensemble nous bâtissions un monde où rayonne plus de justice, plus de paix, plus d'espérance. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, en communion avec tous les chrétiens de toutes les églises, de toutes les paroisses et de toutes les générations, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors vous pouvez laisser, si vous le désirez, vos cantiques, vos recueils de cantiques sur les chaises en bordure d'allée centrale ou latérale pour que vous ayez les mains libres pour dire bonjour à quelqu'un et puis pour tranquillement fluidifier la sortie de cette maison. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce temps de culte et recevez, pour terminer, ce don qu'est la bénédiction de Dieu donnée pour votre personne individuelle dans votre existence quotidienne. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, toi. Qu'il fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Béni sois-tu, ô Dieu, source de vie. Amen.